Ce soir, on va avoir dans le cycle séminaire Genre, normes et transgressions, et plus particulièrement sur genre et parité en milieu de travail, donc Antonella Corsani, maître de conférence en économie à l'Université Paris 1, et Reine Pratt, agrégée de lettres, chargée de mission pour l'égalité au ministère de la Culture. Je voulais juste vous rappeler qu'après, il y aura un débat, après l'intervention des deux personnes, et qu'il faudra bien parler au micro qui circulera dans la salle. Voilà.
Ça marche? Ok. Alors, bonsoir d'abord. Et vous dire immédiatement donc une chose. Le titre de ma contribution à ce débat, à ce séminaire, peut vous apparaître un peu étrange et vous avez raison. C'est étrange. Alors, je vais vous expliquer pourquoi c'est étrange. Alors, lorsque Anita m'a proposé d'intervenir dans ce séminaire, Anita, que je remercie vraiment de m'avoir invitée, j'en suis ravie d'être ici.
Latinisé, américanisé, latino, mon prénom, je suis très contente, c'est Annie.
Annie.
Anita, j'aime bien.
Anita. Annie. Annie. Agopia. Voilà. Donc, alors, je vous disais donc, lorsqu'elle m'a proposé d'intervenir dans ce séminaire, ma première grande difficulté, c'est que je suis économiste. Et un économiste, il n'a presque rien à dire, en général. Donc, ma difficulté, c'était d'aborder cette question en étant économiste, quoi. Eh bien, je pourrais vous raconter ma vie, mais je ne vais pas le faire. Peut-être juste un mot que j'ai fait de l'économie pour ne pas être enfermée dans les disciplines féminisées. Je l'ai regretté lourdement, mais peu importe. Donc, quoi dire en tant qu'économiste sur la question de la parité? Alors, deuxième grande difficulté, parité, eh bien, c'est une catégorie que je ne mobilise pas. Donc, grande difficulté, je vais chercher sous le dictionnaire qu'est-ce que ça veut dire parité. Parité, ça veut dire égalité parfaite. Égalité parfaite, oui. Je pense qu'on sait bien que cette égalité parfaite, on ne peut pas la vérifier. Pour reprendre l'idée de Jacques Rancière, l'égalité se vérifie. Bon, ben, je ne l'ai jamais vérifiée. Passons à autre chose. Qu'est-ce que je fais maintenant avec ça? C'est-à-dire égalité, mais au sein de quoi? Et donc, mon problème devient, en fait, égalité, mais au sein de quel monde? Et puisque la question, c'était parité en milieu de travail, parité dans quel travail, pour quoi faire, qu'est-ce qu'on fabrique? Donc, je vous propose un déplacement. Voilà. De la question de la parité à la question de l'altérité. C'est le premier mot qui apparaît dans le titre de mon intervention. Pourquoi altérité? Eh bien, parce que je vais le prendre d'un point de vue féministe. Féministe dans un sens où on m'a sollicité à m'expliquer un peu plus sur qu'est-ce que j'entends par féministe. Alors, j'ai souvent utilisé le terme de post-féministe pour marquer ce qui était, de mon point de vue, une rupture. Et en tout cas, lorsque je parle de féminisme comme positionnement critique, comme déconstruction et construction passionnée, je pense à ce féminisme qui a émergé d'une critique radicale du féminisme historique né, et que cette critique naît au croisement des luttes homosexuelles, des minorités homosexuelles, transsexuelles et des minorités ethniques, notamment dans l'expérience des États-Unis. Voilà, donc quand je dis altérité, je prends un point de vue, un positionnement critique féministe dans le sens que je viens de le dire. Et donc, troisième mot du titre de mon intervention, alternative. Et pourquoi? Parce que, et là c'est mon désir, j'ai le désir de chercher avec d'autres quelque chose qui puisse constituer véritablement une alternative, non pas comme un modèle, mais comme quelque chose qu'on peut construire d'ores et déjà, ou qu'on est en train déjà de construire, et je le pense véritablement, par rapport à ce monde qui s'impose à nous et qui prétend à son unicité. Voilà. Alors, j'espère déjà que sous le titre, j'étais un peu plus claire. Et maintenant, quelle démarche je vous propose? Alors, je vous propose une démarche qui n'est pas du tout linéaire, parce que je n'ai pas un esprit linéaire. Ce qui m'était critiqué dès que je suis arrivée en France, c'est que je n'avais pas un esprit linéaire. Donc là, je le récupère. Je me donne le droit d'être non linéaire. Donc je vais faire des sauts un peu dans l'histoire. Je vais en présent, après je passe au passé, je reviens au présent, etc. Donc, si je ne suis pas claire, vous pouvez me dire, bon, stop, on ne comprend plus rien de ce que tu nous racontes. Alors, donc j'essaie de poser la question, y a-t-il une possibilité aujourd'hui, ou qu'est-ce qu'on peut repérer comme trace d'une forme de résistance en milieu de travail, ou par rapport à la conception même du travail et ce mot qui me semble tellement inflationné aujourd'hui, trop inflationné, qui va recouvrir tout ce qu'on fait, et comme contrainte qui s'impose radicalement, eh bien, est-ce qu'on peut développer un point de vue critique qui puisse porter l'histoire des moments auxquels j'ai fait référence? Est-ce qu'on peut le penser comme ça? Alors, pour faire ça, je vais partir, première phase. Je vais regarder ce qui est aujourd'hui appelé comme un processus de féminisation du marché du travail. Alors, première chose qui va apparaître un peu choquante, je vais vous dire, voilà, très simple, s'il n'y avait pas eu de féminisation du travail, on se porterait très bien. C'est une plaisanterie, mais je vais m'expliquer un peu mieux. Alors, vous me permettrez quelques chiffres. Pour préparer l'intervention d'aujourd'hui, c'est des chiffres que j'ai cherchés exprès et que moi-même, qui m'ont étonnée. Donc, premier chiffre qui me semble important quand on parle de féminisation du marché du travail. Alors, il faut savoir qu'entre 1968 et 2005, la population active en France s'est accrue de 7 millions. De ces 7 millions, 6 millions sont des femmes. Première donnée. Si on regarde les séries historiques, on voit que depuis le début du siècle de 1900 jusqu'à 1968, la population active, vous avez une idée, je présuppose que tout le monde connaît ce jargon. Population active, on entend les personnes en âge de travailler, qui soit en emploi, soit en cherche un. Donc, les salariés et les chômeurs. Donc, de 1900 à 1968, la population active française reste pratiquement stable. Et sa structure, en termes de hommes-femmes, reste stable. C'est-à-dire, un tiers de femmes, deux tiers d'hommes. Or, depuis 1968, bouleversement radical, 7 millions de personnes en plus sur le marché du travail, dont 6 millions de femmes. Donc, on arrive à une situation dans laquelle la population active est moitié femme et moitié homme. Bien entendu, je opte pour cette approche binaire qui est celle qui propose la statistique, c'est la seule qu'on connaisse. Bon, et maintenant, première donnée, on a ce grand afflux des femmes qui auparavant ne faisaient rien. Je reviendrai sur ce « ne faire rien ». Donc, elles étaient heureuses, enfermées en prison dans la maison. Et on a cette féminisation. Deuxième point, vous avez certainement entendu parler, par-ci, par-là, d'un processus de précarisation et de l'émergence des travailleurs pauvres. Si on regarde les données sexuées, hommes-femmes, de cette précarisation, eh bien, on découvre que chez les femmes, les emplois atypiques, qu'est-ce qu'on entend par forme d'emploi atypique? On entend tout ce qui déroge à la norme du contrat à durée indéterminée et à plein temps. Eh bien, dans la population active féminine salariée, ce taux est de 41%. Chez les hommes, de 16%. Donc, autre donnée assez étonnante, eh bien, lorsqu'on parle de précarité, on parle d'un phénomène qui est essentiellement féminin. Mais je vais nuancer un peu parce que il n'y a pas que des victimes dans cette histoire. Et je vais vous expliquer pourquoi. Parce que, en fait, je vous disais, le CDI à plein temps, des contrats qui dérogent à la norme du CDI à plein temps. Si on va regarder de plus près, donc on a effectivement 1 million de femmes qui sont avec des contrats atypiques, un CDI, un apprentissage, contrat aidé. Et après, on a 3,3 millions de femmes à temps partiel. Et là commence l'histoire. Pourquoi commence l'histoire? Parce qu'on peut dire, mais voilà, les victimes sont là. Et cependant, il y a un problème, c'est-à-dire que toutes les enquêtes qui sont menées sur le temps partiel laissent apparaître un chiffre qui demande à être interrogé, à savoir un tiers des femmes à temps partiel souhaiteraient travailler plus. Et donc, on démarre tout le discours là-dessus. Un tiers des femmes souhaiteraient travailler beaucoup plus. Il y a un problème, c'est qu'il y a 2/3 des femmes qui probablement ne souhaitent pas travailler plus, et même pas gagner plus. Hein? Voilà. Donc, bon, ça pour dire qu'il y a effectivement un problème de précarité, mais il y a aussi quelque chose qui a à voir avec le temps, et la question du temps me semble aussi importante à être posée aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on fait de notre temps? Qu'est-ce que c'est le temps? Et quelles sont les temporalités de nos vies? Donc, troisième point. Donc, pardon. Effectivement, il y a quand même un autre phénomène. Vous avez entendu parler, j'imagine, des travailleurs pauvres. Eh bien, chez les travailleurs pauvres, c'est un phénomène aussi, là aussi, très féminin. Mais aussi dans la population pauvre tout court. Et quand on va regarder de quoi il s'agit, eh bien, il s'agit d'un autre phénomène qui me semble aussi important, la montée en puissance des familles monoparentales, donc la figure de la femme seule avec enfant. Pourquoi j'attire votre attention là-dessus? Parce que je crois que lorsqu'on parle du travail et lorsqu'on parle donc de la question, des questions sexuées, on ne peut pas ne pas prendre en compte la transformation radicale, qui est une transformation sociétale de l'espace de la famille et de l'éclatement de la famille, justement, comme fait qui est porté par les luttes sociales, par les mouvements sociaux, par les gens, et qui constitue une irréversibilité, quelque part, de l'histoire, malgré tous les efforts qui puissent être faits, y compris avec les proximités avec le pape, parce qu'en Italie, c'est véritablement un problème, par exemple. Je suis d'origine italienne. Je peux vous dire qu'il y a un bon engagement de la part de l'Église pour mettre un fin à cette histoire. Donc, j'ai voulu porter l'attention là-dessus, sur la question, justement, d'un éclatement de la famille. Je retournerai sur cet aspect. Troisième question. La question des inégalités salariales. Alors, je lisais dernièrement qu'on constate encore aujourd'hui un écart de l'ordre de 37% de différence de revenus entre les hommes et les femmes. Cependant, une grande partie de cet écart est déterminée par le fait que les femmes, une grande partie des femmes, disons une part importante des femmes salariées travaillent à temps partiel. Mais on n'a pas épuisé la question. En fait, il y a, je dirais, trois ordres d'éléments, trois ordres de facteurs qu'il faudrait prendre en compte pour comprendre cette inégalité salariale. Le premier ordre, c'est celui des métiers et des secteurs d'activité. Alors, pour vous donner une idée, il y a certains secteurs émergents, et qui par ailleurs constituent un véritable enjeu, de mon point de vue, dans le capitalisme contemporain, qui sont à dominante féminine. Il s'agit notamment des services particuliers, et des secteurs de l'éducation, de la santé et de l'action sociale, où le taux de féminisation est de 74%. Autrement dit, 30% des femmes travaillent dans ce secteur. Donc il y a une question de métier. La question des métiers, pourquoi devient importante? Je pense qu'il y a un enjeu fondamental. Pourquoi? Mais parce qu'en fait, la différence salariale dépend de quelque chose qui ne relève rien que d'une représentation sociale de la valeur des métiers. Il y a là un enjeu. Alors, si vous voulez, il y a des travaux que j'apprécie beaucoup de femmes engagées sur la question de l'égalité, etc., qui pose la question de pousser, orienter des comportements pour pousser les femmes à investir des métiers plus compétitifs. Je pense que la question doit être posée autrement, c'est-à-dire quelle est notre responsabilité dans la construction sociale de la représentation des métiers. Ça peut vous apparaître étrange et un peu vieillot. Il y avait un passage dans un bouquin que j'ai beaucoup aimé de Virginia Woolf où elle posait justement cette question. Qu'est-ce qu'elle vaut plus? Une institutrice ou un PDG, pour le dire dans les termes d'aujourd'hui. Or, cette valeur-là, la détermination d'un salaire, la détermination de cette valeur-là, elle n'a rien d'économique. Elle n'est que sociale et politique. Donc, attirer l'attention sur cette question des métiers, pour moi, est très important parce que on renvoie à des variables économiques alors qu'il n'y a rien d'économique. Deuxième raison pour laquelle, deuxième facteur, bon, c'est les catégories socioprofessionnelles et carrières. Je laisse d'autres en parler aussi pour des secteurs spécifiques. Troisième chose, c'est effectivement l'inégalité du taux horaire de salaire. Et là, il y a une différence qui relève de l'inégalité au sens strict. Bien, après avoir pris ces faits stylisés, et en portant l'attention surtout sur la question de la précarité, eh bien, on a deux scénarios qui s'offrent à nous, qu'on pourrait définir comme des alternatives infernales. J'aime bien utiliser ce terme qui avait été pensé par Isabelle Stengers. On est toujours posé par, on est toujours face à des alternatives infernales. Eh bien, les alternatives infernales, dans ce cas de figure, concernant la question de la précarité et de la pauvreté, aujourd'hui se posent dans les termes suivants. Il y en a un que vous connaissez très bien, je le résume dans des termes qui sont aussi connus, travailler plus, gagner plus. Donc, c'est la mise en place de politiques néolibérales qui comportent le démantèlement de toute forme de welfare, accompagné à des politiques d'incitation au travail. Souvenez-vous, il y a 2,2 millions de femmes qui ne veulent pas travailler plus, donc c'est quand même une bonne cible. Donc, incitation au travail, donc les politiques dites de workfare. Donc, la mise en place d'un tas de dispositifs pour permettre l'épanouissement du marché. Et de l'autre côté, on a une alternative, c'est qu'il se voudrait justement une position critique par rapport à la gouvernance néolibérale, qui est la logique de dire, eh bien, on peut réinventer une croissance, parce qu'on est toujours dans un schéma de croissance, disons, la perspective est toujours celle d'une croissance qui pourra tirer le gré du travail, générer des revenus, et ainsi on sera tous heureux. Eh bien, l'alternative est l'alternative d'une certaine gauche qui dit, voilà, on peut réinventer le keynésianisme. Alors, le keynésianisme, c'était les politiques qui ont été menées dans les années 50 dans les pays occidentaux et qui visaient donc à une forme d'intervention de l'État, une forme correctrice de l'État qui allait intervenir pour corriger les erreurs du marché, le marché ne permettant pas le plein emploi. Une politique volontariste de l'État allait générer une croissance, donc par une demande supplémentaire déterminée par les dépenses publiques, allait donc générer une croissance de plein emploi. Donc, vous avez certainement entendu parler, j'espère que vous n'y avez pas rêvé, à ce mythe de la croissance de plein emploi. Et pourquoi je dis ça? Parce qu'en fait, justement, les mouvements, et parmi ces mouvements, justement, les mouvements féministes ont mis à mal ce modèle, pourquoi? Parce qu'il n'y a jamais eu de plein emploi et la croissance était toujours aux dépens de quelqu'un. Donc, j'essaie de d'expliquer un peu mieux ce que je vais dire. Si on revient sur ces années qui ont été définies les 30 glorieuses, vous avez peut-être entendu parler des 30 glorieuses. Donc, ces 30 glorieuses qui me semblent vraiment pitoyables. Donc, il y avait un plein emploi, certes, mais qui était défini par une norme qui était le plein emploi masculin et blanc. C'est-à-dire, on avait des immigrés sans droit, sans citoyenneté, et on avait les femmes qui étaient exclues parce que il y avait quelque chose qui était nécessaire pour le bon fonctionnement du welfare state, qui était le welfare familial, et donc le fonctionnement de la famille. Donc, le chef de famille, travailleur, bon consommateur, bon mari. Donc, le plein emploi, et voilà qu'on retrouve nos inactives, parce que les femmes étaient considérées statistiquement, économiquement et politiquement inactives. Donc, ce modèle de croissance, et pourquoi je disais aussi une croissance basée sur le pillage, parce que on ne pourrait pas comprendre cette période de croissance sans comprendre la mise en place des politiques néocoloniales dans les pays du Sud et le pillage, le véritable pillage des matières premières. Donc, en fait, un modèle de croissance qui se veut de 30 glorieuses, que je pense que si on regarde avec un point de vue justement critique, ne peut être absolument pas un mythe, un rêve ou un souhait pour le futur. Donc, alors, je vais revenir peut-être, je vais essayer d'accélérer un peu. Donc, je vais revenir sur cette question de l'inactivité des femmes parce que ça me semble important. Pourquoi? Parce que ces moments de l'histoire nous apportent aussi quelque chose qui doit nous permettre de repenser la question du travail. Justement, comme elle se pose aujourd'hui. Je ne sais pas si vous avez entendu parler ou vous avez saisi un déplacement qui a eu lieu avec Lisbonne. On ne parle plus de réduire le taux de chômage. Ce n'est pas le problème. Le problème, c'est de réduire le taux d'inactivité. Et justement, l'histoire de l'inactivité des femmes peut nous apprendre quelque chose sur le présent. Pourquoi? Parce que les femmes étaient considérées inactives. C'est-à-dire que tout le travail, qui était le travail de reproduction de la force de travail, était considéré inexistant, invisible, non comptabilisé. Pardon? Ça l'est toujours, tout à fait. On est d'accord là-dessus. Cependant, il y a des transformations à ce niveau-là. Et les transformations relèvent aussi du fait qu'une partie de ce travail, aujourd'hui, il est sous-traité. Le développement du secteur des services à la personne, les services à domicile, mais qui ne sont pas simplement le travail de ménage, c'est aussi le soin des personnes âgées, le soin des malades, le soin des enfants. C'est tout un tas de des formes de travail qui sont, je dis sous-traitées, pour dire qu'il y a une nouvelle division du travail, qui est souvent aussi une division du travail entre femmes. Donc, on revient sur la question des métiers. Qu'est-ce qu'il vaut plus entre le fait de pouvoir faire appel à des femmes immigrées qui s'occupent des enfants, puisque la seule possibilité, c'est qu'il y a un écart de salaire important entre le salaire payé à une femme immigrée qui s'occupe des enfants et le salaire qu'on peut percevoir en allant travailler quelque part. Donc, je vais dire que là, il y a une complexité, une complexité qui me semble nous informer sur un tas de questions et nous impose des réflexions. Alors, je reviens sur l'inactivité. Donc, les femmes étaient inactives et à ce moment-là, il y a eu dans les années 70 quelque chose de très important, c'est-à-dire que les mouvements féministes ont démontré qu'il y avait une analogie entre travail de production, donc production de marchandises, et travail de reproduction comme reproduction de la force de travail. Cette analogie permettait de démontrer quoi? C'est qu'il y avait toute une partie de travail, qui était donc le travail de reproduction de la force de travail, qui était non rémunéré. Donc il y avait une surexploitation. Mais le problème, Alors, vous, je ne sais pas si vous avez un souvenir ou si vous avez eu l'occasion de lire, je l'ai fait dernièrement, les débats qui ont eu lieu, même à l'époque, en France, notamment j'ai relu une revue qui s'appelait « Jamais contente », dans lequel il se préfigurait aussi la revendication d'un revenu qui rémunère cette activité invisible des femmes. Mais pourquoi cette revendication ne l'a pas emportée? Pour une raison très simple, que l'analogie entre reproduction, entre sphère de la production et sphère de la reproduction trouve une limite. La limite était dans le fait justement que ce qui était en jeu dans la famille, dans le ménage et dans la conception de la famille, n'était pas simplement un travail exploité, c'était aussi une liberté. Et donc, effectivement, le mouvement féministe n'a pas véritablement porté cette revendication d'un revenu garanti pour rémunérer le travail invisible, pourtant nécessaire pour la valorisation capitaliste, mais a porté la revendication de pouvoir sortir de la maison. En fait, aller travailler, c'était la possibilité de rechercher la liberté de sortir de la prison. Donc, aller travailler, mais pour faire quoi? Eh bien, travailler et travail dans les sociétés, dans notre société, ce n'est pas le travail en général. C'est une forme bien particulière de travail, c'est le travail salarié. C'est-à-dire un travail qui comporte deux choses, la contrainte monétaire du revenu et la subordination. Or, la question que je pose, et je pense qu'on peut poser aujourd'hui, c'est de savoir dans quelle mesure on peut construire la dignité humaine sous le principe de la contrainte et de la subordination. Mais le choix qui a été fait, le choix ou la contrainte aussi, parce que justement devient une contrainte, par les femmes, c'était de sortir de l'oikos, de la maison, donc choisir l'autonomie et l'indépendance au prix de l'assujettissement au travail salarié. En faisant ça, et c'est là que peut-être je vais soutenir une thèse qui peut vous apparaître aberrante, eh bien, ce mouvement-là est justement le mouvement qui a fait sauter cet équilibre qui était assuré par un certain welfare state, par un certain type de développement et de croissance porté par l'État-providence, l'a fait sauter, puisqu'il n'était pas possible, il était impraticable, il n'était pas viable, si ce n'était que au prix de cet enfermement des femmes et de cette exclusion des droits des travailleurs immigrés. Et qu'est-ce qui se passe alors? Donc, revenons sur nos chiffres, on a une féminisation du marché du travail. Est-ce qu'on peut retenir de cette histoire les chiffres que je vous ai donnés tout à l'heure de féminisation, précarisation au féminin du travail? Je dirais que non. Pour une raison très simple, c'est que je crois que la transformation est bien plus radicale. Qu'est-ce qui se passe justement du secteur de la reproduction, de la sphère de la reproduction? Or, la thèse que je soutiens, c'est que la transformation majeure du capitalisme contemporain porte justement dans le fait que la valorisation des capitaux se déplace de la production de marchandises vers la reproduction de la vie. Donc, devient, on pourrait dire, un biocapitalisme, un capitalisme de la vie qui met au centre de l'activité les champs de la reproduction de la vie. À savoir les champs de la reproduction de la vie biologique et sociale. Quand je parle de vie biologique, je fais référence aussi à la fabrication des corps. Quand je parle de reproduction biologique, je fais référence à tout ce qui relève du travail du soin, du travail du care, mais c'est des formes de travail qui imposent une autre question assez centrale, que c'est une question d'éthique. Les connaissances qui sont en jeu dans la reproduction des corps sont des connaissances qui posent et qui nous imposent des questions de responsabilité et En ce sens, on ne peut pas considérer que la question est tout simplement une question d'égalité. C'est aussi une question de savoir qu'est-ce qu'on va faire là où on travaille, quel type d'interrogation sur ce qu'on fabrique. Et puis, autre point qui me semble aussi à soulever, c'est que dès lors que la vie devient un champ véritable investi par la valorisation capitaliste, eh bien, on s'aperçoit que la vie, les vies n'ont pas tous le même prix, n'ont pas tous la même valeur. Si on regarde ce qui se passe dans le domaine de la recherche médicale, on s'aperçoit très vite qu'il y a une hiérarchie des valeurs des vies. Et donc, la précarité, ce n'est pas simplement une précarité des emplois, c'est des précarités des vies qui concernent justement cette hiérarchie sociale des vies. Alors, pour terminer, et je pense avoir respecté à peu près le temps qui m'était accordé, je reviens sur l'altérité féministe. Il me semble alors, à partir de ce schéma que j'ai essayé de tracer rapidement, un peu confus, je vous avais prévenu, je ne suis pas linéaire, il me semble qu'il y a un certain nombre de terrains, de questions qui doivent être posées dans une question plus large de l'égalité ou d'un point de vue féministe sur le travail. C'est la mise en cause de la hiérarchie des métiers. C'est la question d'une interrogation sur le sens du travail et sur ses finalités. C'est une question du temps. Qu'est-ce que ça veut dire aujourd'hui se réapproprier le temps en le soustrayant à une domination d'un discours qui nous restitue la dignité uniquement par le travail et par une prise de notre quotidien par l'impératif du travailler plus. Et enfin, je vous ai dit, le welfare, les ambiguïtés, c'était aussi dans le fait que l'État-providence était fonctionnel à un certain équilibre et reproduction du cycle de capital, mais en même temps, les luttes sociales avaient permis d'élargir le welfare au-delà de ce qui était acceptable et compatible avec la logique capitalistique, à savoir l'extension d'un salaire socialisé. Il me semble que là, il y a à réinvestir cette question, puisque ce salaire socialisé était aussi ce qui permettait d'élargir l'espace qui sépare la subjectivité capitalistique, donc une subjectivité prise dans la logique du capital, des processus de singularisation qui permet justement d'en sortir. Voilà. J'espère de ne pas avoir été trop linéaire. Merci.
Merci Antonella. On va passer avec Reine Pratt pour l'égalité et la mixité dans le spectacle vivant.
Merci. Je suis donc chargée d'une mission au ministère de la Culture, une mission performative, pour reprendre un terme qui m'a été soufflé. Et je parlerai à la fois d'un point de vue féministe. Je reprendrai ici le terme que j'ai entendu récemment par Geneviève Fraisse, un féminisme d'État. Et à partir d'un monde, celui du spectacle vivant, singulièrement figé. Et donc, je parlerai d'hommes et de femmes. Un monde d'abord profondément inégalitaire du point de vue de qui dirige les institutions du spectacle vivant. Je vous donne quelques chiffres. 92% des théâtres consacrés à la création dramatique sont dirigés par des hommes. 89% des institutions musicales. 86% des établissements d'enseignement. On sait que l'enseignement est un secteur très féminin. Et encore 59% de ce réseau qu'est celui des centres chorégraphiques nationaux. Là aussi, la danse, on le sait, est une discipline très féminine. Et nous avons 98, alors je ne sais plus si c'est 93 ou 98% de petites filles dans les cours de danse, et nous retrouvons 59% d'hommes à la direction des centres chorégraphiques nationaux. J'ai regardé aussi qu'il y avait la maîtrise de la représentation. Quand nous allons entendre de la musique dans nos institutions, 97% de ces musiques ont été composées par des hommes. 94% des orchestres sont dirigés par des hommes. 85% des textes que nous entendons ont été écrits par des hommes. 78% des spectacles que nous voyons ont été mis en scène par des hommes. Et 57% ont été chorégraphiés par des hommes. Et j'ai constaté aussi qu'il y avait un écart important entre le pourcentage d'hommes et de femmes à la tête des institutions ou à la tête des représentations et les viviers disponibles. Puisque en termes de direction des institutions, le pourcentage de femmes se situe selon les réseaux entre 0 et 20%. 0%, ça n'est plus vrai, c'était vrai. Il s'agissait en fait des théâtres nationaux, mais depuis la nomination en 2006 de Muriel Mayette à la Comédie Française, première femme dans l'histoire des théâtres nationaux en France à être nommée à la direction d'un théâtre national, nous sommes passés de 0 à 20%, puisque 1 sur 5, ça fait tout de suite 20%. Mais enfin, à l'époque, c'était 0, donc voilà. Donc entre 0 et 20% d'institutions sont dirigées par des femmes, alors que... leur pourcentage à la tête des compagnies, des ensembles musicaux et vocaux, compagnies dramatiques, chorégraphiques, et y compris dans les équipes de direction, on est entre 30 et 53%. Donc, on parle de plafond de verre, vous voyez tout de suite de quoi on parle. Donc, il y a un vivier de compétences qui n'est pas exploité. Il faut en prendre conscience, le mettre à jour et le faire fructifier. J'ai regardé aussi, je donne encore quelques chiffres, puis après on passera à autre chose quand même, la distribution des moyens. Parce qu'évidemment, nous savons aujourd'hui quand même que le talent n'est pas sans rapport avec les moyens dont on dispose pour le faire fructifier. Alors, si je prends un exemple, celui de ce qu'on appelle la décentralisation dramatique, c'est-à-dire les centres dramatiques nationaux et régionaux, il y en a une quarantaine en France. En 2004, les femmes assuraient 8,8% des directions dans ce réseau, mais elles disposaient de 4,6% des budgets disponibles. Le budget moyen d'un de ces établissements était de 3,4 millions. Quand ces établissements étaient dirigés par des hommes, la moyenne de leur subvention était de 3,5 millions. Mais quand ils étaient dirigés par des femmes, on tombait à 2 millions. Voilà, bon, j'arrête avec les chiffres, parce que c'est pas drôle. Et je passe à autre chose. Donc une situation profondément inégalitaire, vous l'aurez compris. Cette situation profondément inégalitaire va de pair avec un système de séparation des sexes qu'on peut trouver peu conforme aux ambitions d'une société moderne et démocratique. Un système de séparation des sexes parce que nous avons un système d'assignation des hommes et des femmes à des tâches, à des fonctions, à des disciplines, à des rôles et à des instruments, je parle de la musique, différents. Quand on est une petite fille, on va apprendre à danser. Quand on est un petit garçon, on peut aller souffler dans un corps. Voilà. D'ailleurs, j'ai une anecdote à ce sujet à propos d'une corniste, parce que quand même il y en a, qui avait réussi, après avoir été auditionnée, à intégrer un orchestre. Et elle est entrée dans l'orchestre et à partir de là, elle a fait l'objet de pressions et de harcèlement tellement importants qu'elle a demandé à aller avec ses camarades cornistes du même orchestre faire mesurer sa capacité thoracique dans un hôpital. Il s'est trouvé que le résultat était que sa capacité thoracique, ça allait très bien pour elle, aussi bien que celle de ses camarades. Mais elle a dû en arriver jusque-là. Bon. Donc un système d'assignation des tâches qui provoque une absence de mixité dans les équipes au sein des établissements, dans les réseaux, c'est-à-dire qu'on réunit... En fait, ma mission a été créée par le directeur de l'époque de la musique, de la danse, du théâtre et des spectacles au ministère qui me disait « c'est insupportable, quand j'ai des réunions professionnelles, il n'y a que des hommes ». Parce qu'évidemment, on réunit les directeurs de ceci, les directeurs de cela, il n'y a que des hommes. Par contre, vous réunissez les relations publiques, il n'y a que des femmes. Bon. Donc, absence de mixité dans les équipes, dans les réseaux et dans les programmations. Cette habitude masculine de se retrouver entre soi fait que lorsque des femmes sont par hasard présentes, ils ne voient plus qu'elles. Je vous donne quelques exemples. J'ai lancé récemment une étude sur les représentations des filles et des garçons et des hommes et des femmes dans les spectacles pour le jeune public. Alors on a regardé les représentations, ce qui se passe sur le plateau, mais on a regardé aussi qui fabriquait ces spectacles. Il se trouve que, alors j'ai pas les chiffres parce que l'étude est en cours, mais donc j'ai pas les chiffres précis sur moi, mais en tout cas, globalement, on a un pourcentage, les spectacles sont fabriqués, sont écrits, conçus et réalisés, c'est-à-dire mis en scène, majoritairement par des hommes. Et ils sont majoritairement interprétés par des hommes. Je rencontre récemment un directeur de théâtre qui est une scène conventionnée pour le jeune public, c'est-à-dire qu'il travaille beaucoup sur le jeune public, et il me dit bah, « c'est très étrange parce que moi, en jeune public, je ne rencontre que des femmes ». Et puis, c'était dans une ville de nos régions, donc je prends le train, il me donne ses plaquettes, et dans le train, et cet homme était de très bonne composition, tout à fait conscient qu'il pouvait y avoir des problèmes, et je regarde sa plaquette de programmation jeune public, il y avait 8 spectacles, sur les 8 spectacles, 5 étaient mis en scène par des hommes. Mais comme il y avait 3 femmes, tout d'un coup, ça en fait beaucoup pour lui, donc il voit que des femmes, voilà. Et donc ils voient que des femmes et certains prennent peur. Alors autre exemple, récemment l'année dernière, enfin oui c'est l'année dernière, sur une période de 15 mois à peu près, il y a eu un grand renouvellement à la tête de ce qu'on appelle les scènes nationales en France. Et il y a eu à peu près une quinzaine de nominations. Et il y a une réunion des conseillers des directions régionales des affaires culturelles et là je fais une présentation de ma mission et l'un de nos conseillers prend la parole et dit mais alors maintenant moi je commence à avoir des candidats qui viennent me dire mais est-ce qu'on peut vraiment poser sa candidature puisque maintenant on ne nomme plus que des femmes. Et donc je lui ai fait remarquer que sur 15 nominations, 5 femmes avaient été nommées à une direction pendant que 10 hommes étaient nommés et que les 5 femmes n'avaient fait que remplacer 5 directrices qui étaient partantes. Donc, après un an et demi, on se retrouve avec le même pourcentage de femmes qu'en 2001, c'est-à-dire à peu près 17%. Voilà. Mais la perception était on ne nomme plus que des femmes, parce qu'on en avait nommé 5 sur 15. Remarque qui a été faite aussi à quelqu'un que vous connaissez peut-être, en tout cas chez qui vous pouvez aller, dans son nouveau théâtre ici à Montreuil, Gilberte Tsai, qui a décidé l'année dernière, enfin je crois que ça doit être la deuxième saison, de faire un effort particulier, et il a fallu faire un effort, parce que ça ne vient pas naturellement, d'introduire des femmes, des metteuses en scène dans sa programmation, et on lui dit bah, « alors maintenant vous ne programmez plus que des femmes ». Elle arrive peut-être à avoir 50% de femmes, mais encore, je ne crois pas. Mais en tout cas, je lui rends hommage ici, parce que c'est un mouvement et un effort. Et les femmes programmées sont évidemment des metteuses en scène tout à fait reconnues et tout à fait formidables. Sauf qu'en général, on va les voir dans des banlieues beaucoup plus lointaines que Montreuil. À l'inverse, je note que la présence masculine en milieu féminin est plutôt appréciée et permet d'ailleurs à cet élément étranger de gagner rapidement des galons. Quand il y a un homme dans une équipe de relations publiques, en général, il est chef du service. Les femmes dans les équipes techniques sont de nos jours très appréciées. C'est d'ailleurs une remarque qui m'a été faite par le centre de formation aux professions techniques du spectacle, où on me dit, quand on envoie des stagiaires, des femmes stagiaires dans des équipes techniques, on ne fait que nous en redemander parce que les équipes techniques trouvent qu'effectivement, quand il y a un peu de mixité dans l'équipe, c'est quand même mieux. Donc, il y a une vraie prise de conscience qui se fait. Maintenant, je n'ai pas encore observé que quand une fille était introduite dans une équipe technique, tout d'un coup, elle devenait rapidement directrice technique ou régisseuse générale. Il en existe. Elles sont peu nombreuses. Alors, je ne vois pas pourquoi je vous disais, j'avais l'intention de vous dire ça, mais enfin, je vous signale quand même cette anecdote à propos de... Excusez-moi, j'ai perdu le fil, mais vous le refabriquerez à ma place. Donc, je voulais quand même vous signaler que sur cette absence de mixité, donc dans notre secteur du spectacle vivant, il y a un exemple particulier qui est celui de l'orchestre philharmonique, l'orchestre symphonique de Vienne, dont le règlement intérieur prévoit qu'il n'y ait dans l'orchestre ni femmes ni personnes de couleur. pour des raisons d'esthétique sur le plateau. Je crois que le règlement intérieur a changé, mais il n'y a toujours pas de musicienne permanente dans l'orchestre. On fait appel en revanche à des harpistes, parce que là, il y a très peu d'hommes, donc, mais elles ne sont pas permanentes de l'orchestre. Et qu'il a fallu pratiquer l'audition derrière par avant pour voir entrer des femmes dans les orchestres symphoniques. C'est-à-dire qu'avant, il n'y avait pas de femmes dans les orchestres. Et puis, on se rendait compte que quand on recrutait des musiciens d'orchestre, parfois, il y avait des systèmes de passe-droit parce que l'élève de machin était privilégié par rapport à l'élève de l'autre. Donc, un jour, on a décidé de faire les auditions derrière par avant. Eh bien, miracle, on a vu sortir derrière les paravents des femmes. Et c'est comme ça qu'elles sont entrées dans les orchestres symphoniques. Alors, cette réticence masculine à avoir des femmes dans leur cercle a une contrepartie, c'est la réticence des femmes à se retrouver entre elles. Et ça, c'est un phénomène très étrange. Alors, il se trouve que moi, dans le travail que je fais depuis la sortie du fameux rapport, j'ai notamment commencé à organiser des réunions de travail avec des professionnels, eux, du spectacle vivant, parce que j'ai pensé qu'il fallait commencer quand même par demander l'avis des principales intéressées, sachant que dans un second temps, on organise aussi des réunions mixtes. Et il se trouve que eh bien, certaines metteuses en scène, musiciennes, ont parfois trouvé bizarre de se retrouver entre femmes parce que toutes sortes de critiques pouvaient tomber sur leur tête. Alors je remarque aussi qu'une fois qu'elles acceptent de participer à ces réunions, elles en sortent ravies parce qu'elles se rendent compte que tous les problèmes qu'elles ont, eh ben, c'est pas elles qui sont en cause, mais que ça arrive à tout le monde, enfin à toutes les autres, et que du coup, ça permet aussi une prise de conscience et donc une attitude un petit peu différente et une plus grande maîtrise sur leur propre histoire. Alors, je vais passer assez rapidement sur les questions d'organisation du travail au sein des entreprises du spectacle vivant, parce que la situation ne diffère guère de ce qu'elle est ailleurs. Inégalité salariale, inégalité d'accès aux métiers, aux fonctions et aux responsabilités, et organisation du travail qui induit une répartition déséquilibrée entre les temps personnels et les temps professionnels entre les hommes et les femmes. Mais je pense que ça, on pourra y revenir dans le débat, parce que ça rejoint certaines choses que disait Antonella, et c'est des sujets sur lesquels moi j'ai besoin de travailler. Donc, je préfère attirer l'attention sur la responsabilité particulière au secteur d'activité dont je parle. Art de la représentation, les arts du spectacle contribuent à forger les imaginaires. Je crains qu'aujourd'hui, ils contribuent surtout à figer des stéréotypes. Et je vous donne quelques exemples. D'une part, la surreprésentation des hommes sur les plateaux. On a parlé des orchestres, mais on peut parler du théâtre, où il y a plus de rôles pour les hommes que pour les femmes dans les spectacles qui nous sont présentés aujourd'hui, et l'assignation des femmes à des rôles spécifiques d'accompagnement de personnages secondaires ou de personnages caricaturaux, et donc on sait bien qu'il faut être jeune et belle, on a plus de chance que quand on ne l'est plus. Alors, une anecdote, ce matin, j'avais un rendez-vous avec un metteur en scène. Vous voyez, je rencontre aussi des metteurs en scène et pas seulement des metteuses en scène, qui me disait qu'il avait un moment pensé fonder un club avec les metteurs en scène qui distribuaient dans leur spectacle des femmes de plus de 40 ans, des comédiennes de plus de 40 ans, qu'ils n'étaient pas très nombreux et que donc ils pensaient s'associer pour faire force et dire que on peut aussi trouver des rôles pour les femmes quand elles ne sont plus jeunes et belles et leur faire jouer autre chose que des grand-mères ou des sorcières. Alors, je pense que cet état de fait, on nous renvoie beaucoup au répertoire. On dit « Ah, mais oui, mais le répertoire, il est comme ça. » Alors, bon. Alors, d'abord, dans le répertoire classique, on peut choisir. Le répertoire contemporain, il continue à s'écrire plus pour les hommes que pour les femmes, mais on pourrait inviter les auteurs et les autrices, je précise que c'est le terme grammatical français, autrice, qui a été interdit au XVIIIe siècle au moment où on a créé actrice, mais l'Académie a interdit autrice, donc je milite pour qu'on l'utilise. Donc ils ne font pas mieux, mais ils pourraient s'y mettre. Et troisième point, on peut aussi peut-être distribuer plus librement les rôles et se dire que dans un monde où le réalisme n'est plus exactement l'esthétique la mieux partagée, on pourrait distribuer les rôles autrement que distribuer les femmes dans des rôles de femmes et les hommes dans des rôles d'hommes. On y vient parfois, mais ça reste encore assez rare. Donc je disais une mission performative parce qu'une fois cet état des lieux fait, effectivement, je continue à travailler puisque le successeur du directeur qui m'avait confié cette mission l'a confirmé. Donc en fixant un certain nombre d'objectifs, évidemment d'abord un objectif de justice sociale avec une meilleure répartition des responsabilités et des temps de travail, on va le dire comme ça, entre les hommes et les femmes. Un objectif de modernisation et de démocratisation du secteur pour une meilleure dynamique économique, un enrichissement de la création et une libération des subjectivités pour que chacun puisse retrouver en soi sa part de féminité et de masculinité, qu'il soit homme, femme ou autre. Pour ce faire, quels outils ? J'ai parlé des groupes de réflexion que je réunis. Je signale que des initiatives se prennent un peu partout en France sans que je sois forcément à l'origine, mais j'y suis parfois invitée. Donc des groupes de travail ont commencé à se mettre en place, soit à l'initiative de metteuses en scène, de musiciennes en région Rhône-Alpes, en Provence-Alpes-Côte d'Azur, en Poitou-Charentes, c'est les trois exemples principaux que j'ai. Et qui provoque une dynamique de la part des centres de ressources du spectacle vivant qui commencent à mettre en place des veilles statistiques sexuées. Les directions régionales des affaires culturelles s'y associent aussi. Donc on espère progresser avec un système qui est donc veille statistique, fixation d'objectifs quantifiés de progression, mise en place d'outils de mesure de résultats, et pour engager l'ensemble des partenaires du spectacle vivant dans ce type de chantier, nous allons leur proposer, donc c'est un scoop, ça reste encore, c'est pas encore officiel, mais on y travaille, l'idée de mettre en place une charte de l'égalité appliquée au spectacle vivant. La réunion, sans doute en 2009, d'Assises nationales pour l'égalité, qui rendrait compte de tous ces chantiers lancés et qui en proposerait pour l'avenir, et puis sans doute la mise en place d'un site internet qui rendrait compte de tous ces travaux. Voilà, merci.
Merci Rennes. Je rappelle que ton rapport est en ligne sur le site de la Maison Pop, www.maisonpop.net. Voilà. On va peut-être passer aux questions. Alors moi, c'est un peu effrayant tout ça. C'est un peu même super déprimant. Moi, je voulais savoir si la parité, en tout cas le dispositif tel qu'il est mené à l'heure actuelle, est pas plus une utopie ou un os à ronger à donner aux féministes. Pardon ? Un os à ronger donner aux féministes. Un os à ronger.
Peut-être on peut prendre, essayer de faire circuler un peu la parole. Qu'est-ce que vous pensez ?
Je pense qu'il faudrait un peu parler de la parité, peut-être. C'est-à-dire, puisque c'est un mot qui a circulé, qui a refusé, mais vous n'avez pas arrêté de parler de
chiffres. Oups. Vous n'avez pas arrêté de parler de chiffres, mais...
Vas-y. Oui.
Par rapport à parler de chiffres, par rapport à parité, parité parfaite, égalité parfaite...
C'est ça ?
Oui.
Oui, Antonella, pardon. J'ai une espèce de question qui traverse les deux interventions et qui est autour de l'histoire de normes et transgressions qui semble être le chapeau quand même des interventions. Sachant que j'ai l'impression, je rebondis sur le mot chiffre, qu'on est beaucoup dans une norme à vous entendre et à entendre d'autres choses d'ailleurs, hein, qui est toujours très quantifiée et toujours référée à une norme qui du coup est très masculine. Donc on a l'impression qu'on est dans des outils ou dans des concepts qui sont toujours du côté de la quantification, de la vérification du fonctionnement des normes, finalement, et de ce qu'elles produisent. Mais qu'au fond, on est très court sur la transgression. Alors, je ne sais pas si l'implicite de ça, c'est que du coup, elle est féminine, ce qui serait plutôt d'ailleurs une bonne nouvelle. Ou en tout cas, qu'est-ce que vous pouvez en dire ? Parce que j'ai l'impression qu'on est encore dans un système où on pense la norme. On pose les problèmes, on les articule, c'est absolument fondamental, mais en même temps, on n'ouvre pas de perspective vers ce qu'on pourrait garder comme terme, puisqu'il a été posé, hein, la transgression. Alors, on entend la dame qui fait du corps de chasse et qui transgresse. On entend les auditions derrière, les paravents, qui sont une forme de repérage ou de dissimulation pour faire émerger des choses. On entend dans vos discours un certain nombre de choses où on se dit « Ah, peut-être qu'on va aller vers l'avenir, vers demain. » Mais moi, j'ai une question qui est ce mot « transgression », qu'est-ce qu'on en fait par rapport à féminité, par rapport à parité, par rapport à altérité, par rapport à... Voilà.
Moi, j'ai juste...
C'est quand même l'outil lui-même. Sur la question de la transgression, moi, ce que j'ai entendu, c'est... par exemple, il faut distribuer les rôles des hommes et des femmes indifféremment du biologique. C'est pas mal, ça. Comme, oui. Tu vois, je veux dire, il y a eu des portes ouvertes. Et puis, j'ai entendu Antonella, je parle à leur place, c'est dramatique, dire il faut repenser le mot parité. Tu vois, il a commencé à déplacer les choses par rapport à ça. C'est à vous de parler. Moi, je faisais que répondre à ma copine à côté.
Non, mais je pense aussi que... Bon, c'est... Je pense aussi que c'est plus sympa si on ne reste pas comme si j'avais un truc, un savoir, et voilà, je réponds à des questions. Je pense que c'est plus intéressant, peut-être, si on fait plus circuler la parole. Parce que je pense que tout le monde a des choses à dire, hein. Après, je peux reprendre la parole pour effectivement sur les questions ou pour répondre ou repositionner mon propre point de vue sur les questions. Mais ce que je proposais, c'était tout simplement, si vous en avez envie, qu'on essaie de pas faire des dialogues à deux, quoi. Voilà. Maintenant, je vais pas non plus bloquer comme ça. Effectivement, je pense c'est quelque part un peu forcé, hein, mais en soutenant cette thèse comme quelque part la crise dont on parle tout le temps, de ce qui a été cette phase magnifique de croissance, de plein emploi, etc. Mais justement, c'est le déploiement le plus formidable de tout un tas de mouvements qui ont porté, qui ont transgressé à toutes ces normes qui étaient nécessaires pour que cette fameuse croissance magnifique. Je veux dire, il y a eu, j'ai fait référence au mouvement féministe, mais c'était aussi dans les années 70 l'émergence des mouvements écologistes, la mise en cause du concept même de croissance ou faire apparaître qu'est-ce que c'est, quel est le prix global de cette soi-disant croissance. Comment la critique et la transgression à la consommation, la fuite de la consommation, je veux dire, parce que quand on dit travailler plus pour gagner plus, on est pris par deux dispositifs. Le dispositif comme consommateur et le dispositif comme travailleur. Travailleur qui investit dans la valorisation de son propre capital humain. Lui, il s'en sortira dans une compétition des uns contre tous. Bon, il y a des formes de se soustraire est déjà une forme de transgression de mon point de vue. Maintenant, effectivement, la question j'en parlais tout à l'heure un moment avec Rennes parce que j'ai lu le rapport qu'elle a fait, que j'ai trouvé très très intéressant, d'autant plus que dans ma vie des dernières années, il m'est arrivé de croiser des intermittents de temps en temps. Non, c'est pas tout à fait vrai, je les ai croisés presque tous les jours pendant beaucoup de temps. Donc, j'ai fait aussi une enquête sur l'intermittence et cette question, elle est vraiment centrale. Et maintenant, la question de la biologisation des rôles, est très très forte, parce que moi je suis toujours très étonnée qu'il faut arriver sur des grands noms du théâtre pour voir jouer des noirs dans les pièces en France. Quand je me suis retrouvée dans le moment des intermittents du spectacle, j'ai trouvé qu'il y avait une pâleur infernale. Je dis, rien à voir avec la société que je croise dans la rue. Je parle pas de Montreuil, hein. Je veux dire, même dans mon arrondissement bien bourgeois du 14e arrondissement, il y a beaucoup plus de couleurs que dans le théâtre français. C'est quelque chose d'aberrant. Comment ça se fait que, du coup, après, tout devient blanc, quoi. Tout devient blanc et très masculin, effectivement. Donc, c'est très masculin, très blanc. Mais voilà, c'est un autre modèle. Quand je vous disais, bah, bon, pour reprendre la question de la reproduction de la vie, dans la reproduction, je parlais de reproduction biologique, mais je parle aussi de reproduction sociale. Dans cette reproduction sociale, le secteur de la culture n'a rien de transgressif. C'est au cœur même, je pense, aujourd'hui, de la production capitaliste. Il est complètement au cœur. Les enjeux, les questions des intermittents du spectacle étaient justement parce que il y a là un enjeu majeur. C'est un secteur qui doit être porté dans les normes du capitalisme. Et qu'est-ce qu'il produit, ce secteur? Mais il produit aussi des normes de genre. Et il se déploie pas mal pour les développer. Des normes de couleur, tout ce qu'on veut. C'est un secteur qui pose véritablement problème. Comme culture, c'est pas très beau à voir. Voilà. Donc, mais il y a effectivement la perspective d'imaginer de la transgression. La transgression, c'est renverser le modèle qui était shakespearien, non? Il n'y avait pas de femmes. Les femmes étaient jouées par des hommes. Les rôles de femmes étaient joués par des hommes, si je ne me trompe pas. Donc, c'était une forme de transgression. Il faut renverser cette transgression aujourd'hui. Et donc, cette perspective-là, effectivement, c'est une forme de transgression. Transgredir à quoi? Mais bon, bah aussi refuser de travailler.
Alors, oui, moi, c'est pour ça que j'ai en introduction donné deux, trois petites pistes, parce que je suis effectivement de mon côté très gênée. Alors, là où je suis pas gênée, c'est que moi, je travaille pour le ministère de la Culture, hein, je suis fonctionnaire, et donc je fais du féminisme d'État, comme je l'ai dit. Il y a aussi que, c'est ce que j'ai dit aussi, c'est qu'on part, et Antonella le confirme, on parle quand même d'un monde qui est extraordinairement figé. Alors, la première transgression, c'est que si demain matin, la moitié des théâtres en France sont dirigés par des femmes, et si la moitié de ce que vous voyez sur des plateaux est produit, conçu, imaginé, produit par des femmes, à mon avis, ça changera fortement le monde. Alors, le problème, c'est que comme elles sont dans la même position que ce que décrit Antonella sur les femmes qui travaillent à temps partiel, il y en a deux tiers qui ne veulent pas travailler plus, et ben, je peux vous dire, moi, qu'il y en a 100% qui ne veulent pas aller diriger ces maisons. Hein, et que, et ben parce que ces maisons, franchement, elles fonctionnent d'une manière que ça ne les intéresse pas. Bon. Et que le premier travail que j'ai fait, ça a été de commencer à fabriquer des candidates. Et à fabriquer dans l'esprit des gens qui décident la possibilité que des candidates soient regardées comme des possibilités. Oui, mais ce qui est trop intéressant dans l'histoire, c'est qu'elles ne veulent pas. Sauf que, sauf que moi, je fais le pari, parce que j'ai pas envie de crever dans le monde tel qu'il est, je fais le pari que si elles y vont, elles vont transformer ces outils. Et pas parce qu'elles sont autres, mais parce qu'elles y arrivent à partir d'une position qui est radicalement différente. Et que ce que je dis, c'est qu'il faut qu'elles y soient introduites en masse. Parce que tant que ça sera toujours une par-ci par-là, elle sera obligée de fonctionner comme ça fonctionne. Et qu'à partir du moment où tout d'un coup, il y en aurait une grande quantité, ça permettrait de commencer à fonctionner autrement. Et ça permettrait à tous les hommes qui n'ont pas envie non plus de fonctionner comme ça fonctionne, de fonctionner aussi autrement. Et que c'est ce que j'appelle la libération de la masculinité, la féminité, la subjectivité de chacun. Alors que là, on a des modèles imposés, et tant qu'on aura les mêmes individus qui continuent à faire fonctionner les choses de la même façon, eh ben, on n'en sortira pas. Après, peut-être je me trompe, et que peut-être qu'il vaut mieux laisser continuer les choses comme elles sont. Je sais pas. En tout cas, en étant à l'extérieur, elles n'ont pas prouvé qu'elles pouvaient faire exploser le système.
Puis après, je vais donner le micro, c'est par là.
Juste deux remarques. La première, c'est qu'on a quand même, alors moi je n'ai aucune statistique, mais je pense quand même que ce sont des idées largement vérifiées. On l'a vu en tout cas dans l'enseignement, quand il y a une féminisation de certaines professions, il y a une dévalorisation immédiate de ces professions, une fuite des hommes d'ailleurs qui repartent ailleurs. Donc je ne suis pas sûre que la poussée quantitative des femmes dans un secteur professionnel corresponde à une transformation radicale des offres de ce secteur. Ça, c'est le premier point. Et puis, la deuxième chose, mais ça rejoint cette idée-là, c'est sur France Inter ce matin, puisqu'on commémore Beauvoir, Simone de Beauvoir, il y avait un journaliste qui expliquait que finalement, dans le deuxième sexe, en 1940, ce que Beauvoir a réclamé pour les femmes, c'est le droit de travailler, parce que ça allait leur donner l'indépendance économique et l'autonomie qu'elles n'avaient pas, et donc, du coup, les remettre dans un système de liberté, pour faire court. Mais aujourd'hui, c'est quand même bien... Alors, ça peut s'entendre en 1940, le sujet n'est pas de débattre de ce qu'a dit Beauvoir à cette époque-là. Ou 40... Combien ?
9.
Excusez-moi, 49, pardon. Mais simplement, aujourd'hui, c'est quand même le même sujet, c'est-à-dire que, et pour l'avoir connu et traversé de façon très personnelle aussi, le travail n'est pas un lieu de liberté. Et les modèles masculins, y compris quand on est une femme qui grimpe dans la hiérarchie, et ça a un coût effectivement supérieur à ce qu'on demande à un homme, mais je n'ai pas le sentiment de m'être épanouie ou libérée en quoi que ce soit en ayant des performances professionnelles, y compris dans des jobs intéressants, hein, c'est-à-dire que je ne parle pas on va dire de jobs de intellectuels. Donc je crois qu'il faut se méfier de cette idée. C'est pour ça que je parlais de transgression tout à l'heure. C'est-à-dire qu'au fond, travailler, est-ce que c'est transgressif ? Et travailler dans les systèmes qui sont massivement pensés par le monde masculin, pour faire court là aussi, et revenir à tous les chiffres qui ont été donnés, est-ce que c'est ça ? Ou est-ce que c'est reconduire et reproduire une norme ?
C'est pour ça que l'idée, c'est de faire en sorte que le système ne soit plus pensé par le masculin, mais que le féminin contribue à le penser aussi. Ah. Et donc à le transformer. Moi, j'entends dans les réunions que je monte avec des professionnels du secteur des milliers d'idées que je trouve complètement géniales sur la transformation de l'organisation du travail dans ces maisons et que j'aimerais bien le voir, quoi. Et ça ferait du bien à tout le monde.
Bon, là, je vais juste faire ma queer, si vous permettez. En fait, un peu un problème par rapport à ce que tu dis, parce que je crois pas que le masculin soit du masculin. Il y a du masculin dans le féminin. Je veux dire, rien que la séparation masculin et féminin me gêne beaucoup. Et donc, ça me pose problème parce que, en fait, justement, je ne pense pas que le changement soit porté par une féminisation en soi. Donc, j'ai toujours dit que, une expression, je suis un peu vulgaire, on me le permettait, en tant que femme, je suis conne comme les autres. Donc, en tant que femme, ça veut rien dire, vraiment rien de tout pour moi. C'est pour ça que je parlais d'altérité, c'est-à-dire dans quelle mesure on arrive à construire, avoir un positionnement critique, qui déconstruit justement les catégories, y compris du masculin et du féminin, mais à partir d'une position minoritaire. C'est-à-dire que le discours féministe, pourquoi ? Parce que c'est partir d'une position minoritaire. Et en partant d'une position minoritaire, affirmer et porter des pratiques critiques qui déconstruisent, y compris ces représentations. Oh, le problème pour moi de la culture, parce que j'ai fini par aller presque au théâtre par devoir, moi ça me pose vraiment un problème parce que j'ai l'impression que quand je vais au théâtre, je regarde la télé, j'ai l'impression que quelqu'un met les mains dans mon cerveau et il essaie de me le fabriquer avec ses représentations justement du masculin et du féminin. C'est-à-dire que le théâtre, même plus que la télé, c'est un lieu très puissant. Puisque il y a cette présence du corps qui agit profondément, qui véritablement forge du masculin et du féminin. Donc pour moi le problème, je ne sais pas qui va le porter, si c'est des numéros 1 ou des numéros 2 de la sécurité sociale, mais le problème c'est comment déstabiliser ces normes culturelles du genre. et je ne suis pas sûre que ce soit des femmes, que ce soit pas la féminisation qui permette cela. Maintenant, que la féminisation, autrement, une chose effectivement qui est importante, que disait Corinne tout à l'heure, c'est qu'effectivement, quand je parlais des métiers, la féminisation de certains métiers, c'est aussi la dévalorisation. Ça, c'est véritablement prouvé. Alors, la question des statistiques, je suis tout à fait d'accord. C'est des normes. Et des normes qu'on peut aussi... Ben, on est pris par ces normes. Donc, quelque part, il faut aussi les reprendre pour les renverser, quoi, quelque part. Je suis fabriquée pour fabriquer des chiffres comme statisticien. Et je les prends et après, je vais dire, je joue avec. Hein. Et c'est important, je veux dire, c'est aussi une forme de transgresser. Hein. Je veux dire, les mêmes chiffres, c'est que je vous ai dit tout à l'heure. On peut prendre les mêmes chiffres, dire 3,3 millions de femmes en temps partiel. Et puis, on peut prendre, voilà des victimes ou dire, voilà des résistantes. Voilà. C'est justement comment on peut prendre et renverser quelque chose qui nous est envoyé systématiquement, que ce soit des statistiques ou des sondages.
Pour vous donner un exemple un peu extrême, est-ce que vous croyez que si Wall Street se transformait de je ne sais pas combien de pourcents d'hommes en la proportion symétrique de femmes, est-ce que le capitalisme mondial se dévaloriserait? Je ne pense pas. Je pense qu'en fait, si les métiers comme les instituteurs, etc., se sont beaucoup féminisés, c'est parce qu'en fait, une population plus grande de classe d'âge passait au lycée. Si maintenant, dans les lycées, les corps des enseignants sont beaucoup féminisés, c'est parce que ça se déplace vers l'université. Et je peux vous assurer qu'à l'université, la féminisation, elle a encore des progrès à faire.
Je vais la main depuis un moment. Je vais garder le micro. Moi, j'ai un problème avec tout ce débat sur la parité, enfin contre la parité. Même si, franchement, le genre, c'est pas mon truc, je trouve que on est dans un truc de fuite des responsabilités, fuite du pouvoir. Et j'aimerais bien qu'on ait le choix de faire cette fuite, d'être en position de dire « Oh, finalement, non, le pouvoir, non, je vous le laisse ». Et à ce moment-là, ça serait bien, on pourrait être subversif. Mais il se trouve qu'on n'a pas le choix. On nous donne pas le choix. Soit on prend le pouvoir que les autres ont, il n'y en a pas d'autres, soit... On va se cacher. On arrête de travailler. Moi, le travail, ça me passionne. Enfin, faire des choses, ça me passionne. J'aime bien ça. Faire des choses avec des gens, j'aime bien ça. Il se trouve que c'est des formes collectives qui produisent des choses et que c'est encore mieux si elles sont rémunérées. Peu importe la manière dont elles sont rémunérées. Enfin, bref, je crache pas sur le travail. Je crache sur la valeur de la production telle qu'elle est capitalisée aujourd'hui. Mais bon, donc... Ça me fait penser un peu à la période électorale où tout le monde disait ah si Ségolène Royal vous faites de la pub pour elle c'est parce que enfin faut surtout pas dire que c'est une femme parce que c'est pas ça le problème. Fallait surtout pas parler du fait que c'était une femme, les gens allaient le voir et alors ils allaient pas voter pour elle. Enfin, je trouve qu'on est dans un espèce de déni général d'une volonté de pouvoir. Moi, je veux le pouvoir, je veux la parité et une fois qu'on aura la parité et le pouvoir, on pourra être subversif et dire vous savez le genre, ça nous fait chier. Mais aujourd'hui, on n'a pas le choix.
Merci.
Il y avait une autre question, non? Non, pas du tout. Ah. Moi, ça m'a un peu coupé la chic, ta réponse. Mais on va pas en discuter là parce que je pense qu'il y aurait trop de choses à dire à ce propos sur le genre et enfin je pense que sur la question du travail, sur la question du pouvoir, c'est toujours les mêmes débats. Est-ce qu'on décentralise le pouvoir? Est-ce qu'on estime que le pouvoir est partout, il faut s'en saisir? Est-ce que le pouvoir il appartient qu'à une minorité de gens, il faut les faire tomber? Moi, j'ai pas de solution par rapport à ça, je pense que personne n'en a réellement. Et la parité telle qu'il est disposée là à l'heure actuelle dans son dispositif, j'entends bien, pour moi c'est le même débat qu'avec les discriminations positives. C'est-à-dire que oui, on peut toujours dire je crache pas dans la soupe la parité, on le veut bien, comme oui, j'aimerais bien qu'il y ait plus de minorités ethniques dans les boulots. Maintenant, s'ils sont choisis sous ce critère-là, si les femmes sont choisies parce qu'elles sont des femmes, il y a un truc qui me pose problème. Donc je pense pas qu'on soit en train de fuir le débat, mais c'est que ça pose d'autres questions qui sont là vraiment en amont.
Oui.
Ah, ça y est. Bon, je ne sais plus très bien ce que je voulais dire maintenant. Témoignage. Je suis prof dans une école d'art. Et je vous assure que d'arriver à avoir un contexte dans lequel on peut commencer à parler de genre et de parler d'un point de vue minoritaire, mais aussi d'un point de vue minoritaire, c'est que c'est « whatever that means ». Tu vois, qu'est-ce que ça veut dire? Je ne sais pas très bien, mais au moins...
Mais prends celui-là. Vas-y.
Ce que je voulais dire, c'est que dès qu'il y a un contexte, tu vois, dans lequel on peut commencer à prendre la parole dès qu'on est plus seul, parce que le ratio des professeurs femmes dans une école d'art, c'est quelque chose comme la prof de culture G, la prof d'anglais et peut-être quelqu'un, genre artiste ou hybride, quoi. C'est très très difficile d'arriver à avoir des discussions et des productions qui répondent aux attentes des étudiants s'il n'y a pas un contexte.
Oui.
Oui, moi je crois, enfin si je peux reprendre la parole là-dessus, je crois que moi ce que je propose c'est essayer de trouver des stratégies qui soient efficaces aujourd'hui et maintenant compte tenu du champ à partir duquel on travaille. Alors effectivement une des idées, d'abord moi c'est pas la féminisation à outrance, quand je dis que les femmes arrivent en masse là où elles sont totalement absentes, ça veut dire que c'est une des règles que je propose d'adopter, qui est pas une règle de quota, mais qui est de dire dans tout ensemble constitué, il serait bon qu'il n'y ait jamais moins d'un tiers de l'un ou l'autre sexe. Bon. Alors, tout ça, c'est aussi très, très pas très intéressant, parce que moi, je m'en fous un peu du sexe des gens. D'autre part, je suis parfois très, très contente d'être entre femmes. Je propose beaucoup de choses qui rencontrent pas vraiment la réalité de ma vie. Mais la réalité de ma vie, c'est une chose. Et le contexte économique, culturel et social sur lequel je travaille, c'est un peu autre chose. Et donc, c'est à partir de ce contexte-là que je fais ce type de proposition. D'autre part, ce type de proposition, eh ben, il faut que ce soit totalement évolutif. Et mon souci, c'est qu'on sorte de ce système qui est absolument figé. Et qu'on le fasse bouger, et que si on le fait bouger, ça produira de la vie, alors qu'aujourd'hui, ça produit de la mort. Et on en est à dire, le ministère de la Culture, il va disparaître, de toute façon, tout ça, c'est terminé. Oui, mais ça change. Mais voilà, justement, on s'en fout. Je veux dire, la question, c'est pas qu'il soit... Tu vois ? Alors je pense que c'est
l'orchestre symphonique et les organes, ouais. et les directeurs de scène nationale. Est-ce que c'est vraiment central dans la vie culturelle française et dans la vie tout court?
Oui, parce que c'est là.
Moi je crois pas.
Hein. Bon,
je crois pas.
Moi ce que je sais, c'est que c'est à partir de là que se décide ce qu'on nous donne à voir quand on va au spectacle. Voilà, donc, et que moi, c'est vrai que depuis ça fait un moment que je commence à m'ennuyer beaucoup au spectacle.
Ça veut dire que toutes les stars du box-office, là, tous nos grands directeurs, nos grands metteurs en scène, les Chéreaux et compagnie, ceux qu'on a suivis pendant 20-30 ans, qui c'est ces gens-là? Alors, tel que vous les décrivez, c'est des gens qui nous amènent à la mort. Moi, je m'en fous, moi, mais
ouais.
est-ce que vous iriez dire ça, vous?
Ben ouais.
Fonctionnaire du ministère de la Culture, que tous les gens qu'on révère dans votre institution, c'est des gens qui nous emmènent à la mort, et il se trouve que c'est des hommes.
Et il se trouve qu'il y a des gens qu'on pourrait révérer et qu'on ne révère pas parce que on les montre pas dans les institutions qui sont dirigées comme elles le sont. Je crois que introduire un peu de diversité ne peut qu'introduire un peu plus de vie. Voilà.
À votre première présentation, notamment par le fait que vous avez conclu en partie en ouvrant sur la question de la remise en cause de la hiérarchie des métiers, en vous appuyant aussi sur en citant Virginia Woolf là de remettre en exemple entre le PDG et l'institutrice. Alors la question que je me pose, parce que d'un certain côté c'est intéressant à penser, mais est-ce que si vous l'abordez comme ça en conclusion, est-ce que vous y avez réfléchi de façon plus approfondie ou plus concrètement, de quelle façon, par un biais étatique, par des lois, et puis quel métier et comment et de quelle façon l'introduire, etc. Et puis est-ce que c'est... Tout en me posant la question, est-ce que c'est vraiment possible? Bon, mais ça peut valoir le coup d'être approfondi, quoi.
Je vais vous répondre parce que j'y tiens beaucoup à cette question. Je ne peux pas dire que je l'ai travaillée véritablement, je pense que c'est une question vraiment centrale. Cependant, je suis vraiment déstabilisée par l'intervention de monsieur parce que du coup, je prends une position très... comment expliquer, il y a une sorte de renfermement et affirmation oui. Alors du coup, je vais même plus la parité, je vais uniquement des femmes. Voilà. Donc et alors, parce que je peux parler aussi, on fait bien des discours, je suis dans l'université, et la hiérarchie masculine qui n'est pas arrangée quand parfois arrivent des femmes au pouvoir, mais quand même, elle est étrange. Elle est étrange. Je m'amuse quand j'ai rien à faire et je suis énervée, je compte le nombre d'hommes et le nombre de femmes dans les différentes réalités. Voilà, je passe mon temps à faire ça. Alors, dernièrement, j'ai compté combien de profs à l'université de Paris 1, combien de femmes parmi, presque rien, donc le compte est vite fini, donc je ne pouvais même pas dormir en comptant. Donc, je suis passée deuxième dans l'échelle, maître de conférence. Alors là, c'est plus nombreux. Et puis, quand vous tombez après chez les précaires, alors effectivement, vous les trouvez, vous pouvez même vous endormir en les comptant, parce que c'est comme ça, en Italie, on dit qu'il faut compter les bérébis si on n'arrive pas à dormir. On peut compter les hommes dans l'université. Donc, effectivement, quand on me dit ça, bien sûr, j'essaie de mettre une transgression dans le discours de la parité, mais si on me dit que ça ne change rien, du coup, alors je vais être président de l'université demain même. Voilà, donc, ça c'est la petite rage qui peut me ressortir très ancienne. J'ai toujours dit, je n'ai pas choisi d'être féministe, je suis devenue à ma naissance. Je n'avais pas de choix. Là, véritablement, je n'avais pas de choix. Donc, je voulais répondre sur deux questions, sur la question des métiers et sur la question aussi que vous avez soulevée sur le travail. Quand je dis « je refuse de travailler », je ne parle pas faire des choses. Vous avez utilisé le terme « faire des choses » me plaît beaucoup. Ce qui me plaît beaucoup moins, c'est le fait que ce mot « travail » devient véritablement un fourre-tout qui va définir toutes sortes d'activités, mais qui en fait, c'est aussi une norme de l'existence et de la reconnaissance de l'individu qu'il n'est reconnu comme individu social s'il travaille. Mais travaille suivant une certaine norme du travail. C'est ça, c'est pour ça que je dis refus du travail, c'est refuser aussi cette inflation du mot travail. J'avais remarqué, je l'ai même écrit, par exemple, que le mot travail a pénétré le monde de l'enfance dès la troisième année de maternelle. Maintenant, on parle de travailler à l'école maternelle. C'est une aberration. On perd de vue toute la multiplicité de l'existence humaine, de l'action humaine. On peut aimer faire des choses. Et ce que je pense qui est important, c'est modifier un langage. Je crois dans le pouvoir des mots. Je crois dans le pouvoir des mots et je pense que travailler à ça, c'est-à-dire ne plus tomber dans ce piège, vous voyez, je dis travailler à ça, je ne sais plus, on ne sait plus parler sans introduire tous les cinq mots travail. C'est une sorte de légitimation sociale, mais il y a d'autres formes de légitimité, de reconnaissance, d'activité, et donc je pense que ça serait intéressant de chercher tous ces mots qui peuvent représenter nos activités, ce désir de faire autre chose et de le faire autrement, qui est dedans une norme du travail, qui est aussi, je répète, cette seule norme qui nous reconnaît comme individus socialisés, comme citoyens. Voilà. Donc ça c'est donc moi aussi j'ai tellement envie de faire des choses, j'en fais beaucoup, mais j'essaie de travailler le mot travail pour essayer de l'éliminer dans la mesure du possible, et aussi de me soustraire au diktat de travailler, parce que l'importance existe aussi. Aujourd'hui on dirait qu'on est plus important lorsqu'on n'a vraiment plus le temps. Alors la capacité de dire stop. Et de dire mais voilà, aujourd'hui j'ai envie de câliner, et c'est un impératif majeur. Aujourd'hui j'ai un rendez-vous important, je vais boire un café, pas dans un café parce qu'on peut plus fumer, donc ça c'est un peu pénible, mais dans une terrasse de café, voilà. Et c'est aussi important que un rendez-vous de travail, parce que on est pris dans cette machine, et même lorsqu'on est précaire. Et même plus, probablement, lorsqu'on est précaire, on a un agenda hyper plein. Il n'y a plus le temps pour vivre. Donc, ça, c'est une chose. Sous la question des métiers, eh bien, je ne pense pas que ça soit une question d'État. Je pense aussi qu'on l'a produit, je dis on l'a produit, parce que je pense que les nouvelles formes de division du travail entre femmes, c'est quelque chose qu'on produit aussi. La représentation, c'est quelque chose, la représentation et la valeur, on la produit aussi. C'est pas simplement quelque chose qui vient de l'extérieur. Et je pense que la révolution des catégories, elle vient pas de l'État, elle vient de nous. C'est quelque chose qui ne peut que... Quand je dis, je pense qu'il s'agit véritablement de repenser cette hiérarchie des métiers. Mais bon, c'est pas moi de la penser, c'est à nous tous de la penser. Qu'est-ce que vaut ? Qu'est-ce que la valeur ? Mais c'est aussi dire autre chose, c'est-à-dire comment se détermine le salaire ? Eh bien, c'est quelque chose de qui n'a vraiment rien de très donné. Je répète, la valeur, qu'est-ce qu'elle vaut plus ? Bon, c'est un produit de la société, donc cette société-là, c'est nous que la faisons. Donc, je veux dire, mais commencer par, j'ai suivi, mais je ne mets presque jamais les pieds dans mon pays d'origine, mais j'ai suivi cette question de la division du travail avec des féministes italiennes. C'est très intéressant parce qu'en fait, l'Italie était un pays d'émigration. Et depuis les années 80, lorsque il y a eu le deuxième boom économique en Italie, en même temps les frontières d'autres pays européens se sont fermées, l'Italie est devenue un pays d'immigration. Et là, s'est développée une nouvelle aristocratie, C'est-à-dire que toutes les femmes, aujourd'hui elles travaillent, elles ont la femme de ménage, elles ont la femme qui s'occupe des enfants, elles ont la femme qui s'occupe de tout. Je ne sais pas comment ils font pour payer ces salaires. Il y a une seule possibilité, c'est qu'il y a un écart de salaire tellement important qui puisse permettre de... avoir alors il y a beaucoup qui prend le luxe aussi de l'avoir à plein temps pour pouvoir sortir le soir et la nuit, donc la personne est enfermée dans une maison, c'est souvent des travailleurs travailleuses immigrés des pays de l'Est par ailleurs qui ont des diplômes très très importants. Il m'est arrivé d'en croiser une que j'avais connue auparavant en travaillant en coopération en Afrique de l'Ouest et que après elle s'était vue nier tous les diplômes comme pédiatre, chirurgien, et se retrouver à faire la vaisselle et vivre à plein temps pour un salaire merdique. Bon, bah, qui est qui l'a produit cette hiérarchie? Mais c'est nous. C'est pas l'État qui va changer la hiérarchie des métiers, et c'est pas l'État qui l'a produit, c'est la société, c'est nous. Il y a une expression que Isabelle Stengers avait, je sais pas si vous voyez qui c'est Isabelle Stengers. C'est une philosophe des sciences féministe aussi, même si parfois elle dit que non. Elle est un peu bizarre parfois. Qui était venue dans une, elle était venue parler avec les intermittents du spectacle. Elle avait utilisé une expression qui m'avait un truc qui m'avait beaucoup plu. Nous sommes tous responsables, ce qui ne veut pas dire que nous sommes tous coupables. Et cette idée de culpabilité, de responsabilité me semble vraiment importante. Donc, la hiérarchie des métiers, je pense que nous sommes tous responsables. Ça ne veut pas dire que nous sommes coupables. Et donc, la transgression, c'est transgredir aussi à travers des pratiques, à travers rien que le questionnement sur comment ça se fait que il y ait ces écarts de salaire. Pourquoi ces écarts de salaire? Voilà, c'est déjà... le questionnement est déjà... peut-être un début de transgression.
Oui. Je veux bien raconter une petite histoire en relation avec ça, sur ces questions de hiérarchie. Et pour vous donner un exemple de la façon dont je pense qu'il faut travailler ces questions-là. Alors moi, j'aime beaucoup la théorie du petit levier, c'est-à-dire ces petites choses qui n'ont pas l'air de grand-chose, mais qui peuvent faire bouger. Sur cette question de la hiérarchie des métiers, donc dans le spectacle vivant, il y a plusieurs types de fonctions, mais il y a notamment, je cite celle-là parce que les unes sont très féminines, les autres très masculines, les équipes de relations publiques, les équipes techniques. Les équipes techniques sont masculines, les équipes de relations publiques sont féminines. Et je me rends compte en allant dans ces maisons que très souvent les uns ne parlent pas aux autres et réciproquement, ce qui fabrique des représentations chez les uns et chez les autres du métier des unes et des autres tout à fait bizarre. Et par exemple, les techniciens vous diront facilement, oh, bah, de toute façon, aux relations publiques, elles font qu'elles passent leur journée à aller se promener. Et dans le genre de préconisations et de suggestions donc qui sont sorties dans ces réunions de réflexion que j'organise, c'est imaginer des journées portes ouvertes à l'intérieur des maisons pour que les uns après les autres, les techniciens aillent un petit peu se promener avec les relations publiques là pour voir ce qu'elles font quand elles se promènent et peut-être se rendre compte qu'elles travaillent, et réciproquement que les personnes qui sont dans les équipes de relations publiques aillent passer quelques heures ou quelques journées dans les équipes techniques pour voir un peu ce que ça veut dire que de travailler à la technique. Voilà, c'est pas grand-chose. Ça peut introduire de la fluidité et certainement un travail, pour le coup, un travail plus efficace. De même que de répartir autrement les temps de travail, les temps personnels, c'est-à-dire inciter les pères à garder les enfants tout autant que le font les mères, au lieu que, comme on m'a raconté récemment, un directeur refusant à un agent et pas une agente, de passer à 80% du temps parce qu'il avait envie de s'occuper de ses enfants le mercredi et que ça lui a été refusé par son directeur. Je trouve que c'était un directeur, ça aurait pu être une directrice. Bah oui, ça pose un problème, mais les choses seraient beaucoup plus souples si justement les uns et les autres et les unes et les autres se partagent mieux et le temps de travail et le temps personnel.
les hommes peuvent rester pour garder les enfants au petit âge pendant un an à salaire, 80% du salaire. Et c'est très récent.
Y a-t-il d'autres questions dans la salle ? Sinon, peut-être.
Non, je vous ajoute un truc alors. Je vous raconte un petit épisode dans ce sens, mais juste parce que je suis revenue récemment sur cette affaire. J'ai vécu un an dans un pays qui est le Burkina Faso, et j'ai vécu pendant la révolution de Sankara, qui était donc une révolution, on pourrait dire, communiste. Et il m'était arrivé une histoire, c'est pour ça que je vous en parle, c'est-à-dire que j'étais très touchée par une grande affiche qu'il y avait, où était marqué « Pas de révolution sans la femme protagoniste ». Mais c'était un personnage vraiment assez drôle, parce qu'en fait, il avait fait ça. Donc, il y a par ailleurs un discours que j'ai relu récemment de... Après, il y a eu un coup d'État, il a été tué. Hein. Bon, pour ceux qui connaissent pas l'histoire, il a vécu pas très longtemps. Donc, ça m'avait beaucoup étonnée, parce que c'était donc le milieu des années 80, c'était un président africain, et dans un discours sur les femmes, il avait dit quelque chose vraiment magnifique. La liberté des femmes, c'est aussi d'être homme. C'était magnifique, pour vraiment étonnant. Mais tout ça pour vous dire que, du coup, il avait fait de ces expérimentations, et je l'avais vécu, c'était hyper drôle, hyper drôle. Il y avait les journées, alors dans un milieu africain, qui n'était pas nécessairement plus évolué dans la division des tâches. Il avait obligé donc les hommes à aller faire les courses au marché. Le marché est tout un monde, à faire le marché pour cuisiner, faire le ménage à la maison, alors qu'il avait pris les femmes dans le gouvernement. Et c'était mais quelque chose d'extraordinaire. Il y a un film qui reprend ces images. C'était vraiment à mourir de rire, parce que il avait été pas nécessairement apprécié, parce que c'était quand même une imposition un peu communiste. Mais c'était quand même assez drôle. Là, il avait vraiment, il avait joué avec cette question du genre de manière assez drôle, un peu provocatrice, un peu insupportable pour certains. Et c'était un peu dans ce style des petits leviers dont tu parles, qui avait quand même, à mon sens, eu un impact assez étrange, puisque j'ai eu à cette époque des relations avec des femmes au Burkina Faso, qui étaient vraiment, je pense qu'à l'époque, je me suis dit, il y a quelque part quelque chose que je comprends pas. Parce que il y avait un processus véritablement de épanouissement à ce moment-là, hein, qui était vraiment assez intéressant, même dans les pièces de théâtre qui se jouaient, parce que j'allais voir ce qui s'est produit justement dans la production culturelle, artistique, etc., qui était porté par ce jeu de confusion des genres, étonnant pour un pays comme le Burkina Faso, où aujourd'hui c'est pas tout à fait pareil. C'était quelque chose. Non, c'était un petit épisode, mais je vous assure, c'était quand même assez génial. Les hommes qui ne savaient pas faire les courses. Ça, c'était génial, génial. C'était à mourir de rire, le marché. Voilà.
Merci. Antonella, Corsani et Irène Pratt. Je pense que on va peut-être s'arrêter là. T'en penses quoi, Annie ? Sauf s'il y avait une dernière question. Non, d'accord. Bon, la prochaine séance sur le séminaire genre normes et transgressions aura lieu le 30 janvier avec sexisme, racisme et colonialisme comme intervenant Elsa Dorlin et Louis Georges Tan. C'est bien parce qu'on a abordé les. Ouais, je vois que tu l'aimes beaucoup. Et la prochaine séance de Sun in Your Head sera vendredi là avec Stéphane Marty, les morsures du désir organisées par le peuple qui manque. Et voilà. Merci beaucoup. Bonne soirée.